un jeune homme s'est tourné vers ses parents, il a dit, papa, maman, je suis amoureux. Ils ont répondu, mais comment sais-tu si tu es amoureux? Il a répondu, mais quand j'ai dit, c'est ma petite amie, je fais un bisou d'adieu, de bonsoir plutôt, de revoir, et j'ai rien senti quand son chien m'a mordu. L'amour est merveilleux. On chante dans nos chants, on le déclare par la poésie. On regarde les films qui parlent de l'amour. Sauf l'amour de Dieu. Et pourtant, Jésus a dit que ça, c'est le premier commandement. Le plus important qui résume tous les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans l'Apocalypse, Jésus il dit qu'il marche dans les églises. Il fait le tour et il comprend chaque église. Le Christ est le chef de cette église. C'est son esprit qui est parmi nous, qui nous donne cette vie merveilleuse. Et c'est à lui d'apprécier à quel point notre amour est frais, que nos cœurs sont embrasés par un amour pour Dieu, pour être en phase avec le Dieu créateur, sauveur de l'univers. Quand l'apôtre Jean écrit Apocalypse vers les années 90, l'amour était plus une passion, c'était plutôt une institution. Et à moins qu'on veille, il est facile que toute relation sombre. Il avait placé Timothée là, l'apôtre Paul, après le démarrage de l'Église, afin d'enseigner à l'Église de marcher dans le Christ et de former des anciens. Mais nous voyons que la deuxième génération a trouvé que c'était plutôt un peu ralenti, le train-train. Et je reconnais qu'il est facile que nous puissions marcher comme dans un train-train devant Dieu. Nous avons besoin que Dieu lui-même, il anime notre foi et que Dieu lui-même, il nous fortifie pour qu'on soit embrasé de nouveau, qu'on garde cet amour continu pour le Christ, pour que ce soit frais, que nous laissions encore ranimer, fortifier par sa présence cet amour, notre premier amour. Tournons avec moi dans vos Bibles, Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Là, tu veux lire pour nous?
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent « apôtres » mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu.
Dans ce texte, c'est le Christ qui tient son Église. Je me réjouis que ce soit entre ses mains qu'il a placé nos vies. Excuse-moi, il y a un enfant. Merci, Jean. Donc, et que nous pouvons nous réjouir. Peut-être on peut se fermer la porte. On peut se réjouir que c'est Dieu lui-même qui nous tient entre ses mains. Le Christ, au verset 1, marche au milieu de nous. Nos vies sont faites pour marcher avec Dieu. Et c'est une joie de le connaître, de marcher avec le Seigneur. C'est lui qui marche avec nous et parmi nous. Il connaît nos œuvres, la Bible dit. Il connaît chacune de nos vies et nos œuvres. Là où vous avez lu votre Bible, là où vous avez prié, là où vous avez demandé à un ami de venir à une réunion pour écouter la parole de Dieu, là où vous avez parlé de votre foi à quelqu'un, où vous avez agi avec amour pour le nom de Christ, le Seigneur sait, il tient compte, il connaît toutes nos œuvres, et il récompensera nos œuvres, il nous dit, au ciel, il nous connaît. Il a loué cette église parce qu'ils avaient des qualités. Regardons les qualités, peut-être que votre vie ou notre vie d'église figure parmi ces qualités. Déjà, au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Et je pense qu'il y a de la persévérance parmi vous. Je pense qu'il y a vous qui avez commencé à marcher avec le Christ, vous persévérez parce que ça fait plusieurs années que vous êtes déjà en Christ. Et ça réjouit le cœur de Christ. On trouve au verset 2, je connais ta persévérance. Au verset 3, tu as de la persévérance et même tu as souffert à cause de mon nom. Si vous êtes encore chrétien, si vous êtes en Christ ce matin, vous avez dû souffrir quelque part. Le rejet de la part des autres, la mépréhension, peut-être des paroles qui blessent, peut-être qu'on vous met de côté. Mais Jésus, il connaît cette souffrance, le sacrifice quand vous êtes fatigué pour venir, pour adorer ou pour témoigner de votre foi devant un monde qui parfois ne comprend pas. Mais cette persévérance, Dieu le reconnaît. La reconnaît comme est déjà une œuvre qu'il bénit. Il voit aussi dans cette église, et j'espère chez nous aussi, qu'on ne peut supporter le mal. Donc, au verset 2, tu ne peux supporter les méchants, ils ont du discernement. Et donc, ils ont haï même, au verset 6, les œuvres des Nicolaïtes. On pense que c'était une secte gnostique qui passait par la connaissance pour connaître Dieu. Mais quelque part, cette église avait un amour qui se distinguait des autres choses parce que ce n'était pas le grand flou, c'était un amour qui haïssait certaines choses. Et dans notre culture, il faut être tolérant. Sauf pour Dieu. Il y a un grand piège. Ici, cette église aimait Christ à un certain point, jusqu'au point de se dire non à d'autres choses, de haïr certaines choses. Si on est ouvert à tout, j'espère que vous avez fermé votre voiture, votre maison, avant de venir, et parfois même notre cœur, parce qu'il est beau. Devant Dieu, Dieu nous aime et il veut protéger. Cette foi, l'amour de Christ. Si par contre, on laisse tout, on fait passer tout, on est tellement tolérant qu'on n'a plus pour se permettre d'aimer Christ, on va se donner son cœur à droite, son cœur à gauche, et l'amour de Dieu, qui a été le premier, n'est plus. Quelque part, si on va aimer, il faut qu'on soit résolu pour décider, même à un certain point, de se distinguer des autres, de se démarquer, parce qu'on aime Dieu, à un point qu'on se permette d'haïr certaines choses qui vont nous mieux. Si on est blême, si on est flou, on ne peut pas aimer Dieu et aimer les autres choses d'une même valeur. Il n'y a pas la place pour tout. Donc cette Église est parmi nous, je sais que pour moi-même, c'est un combat parfois. C'est un combat pour ramener mon cœur vers Dieu dans ce moment. C'est un combat que quand aussi, je sais que Dieu veut que j'obéisse dans certains domaines et que je n'agis pas, c'est là où, à moins que je me fasse entorse, à moins que j'haïsse ma propre vie ou cet autre aspect, je ne peux ramener ma vie vers Dieu. Et parfois, je lutte. Et que Dieu nous trouve, quelque part, qu'on apprenne à distinguer, à décider, à haïr certaines choses qui nous visent. Mais finalement, il dit que dans cette église, il y avait un amour qui n'était plus. Si un jeune homme dit à une jeune fille, jeune femme, je t'aime passionnément, et puis, il ne lui téléphone pas. Il ne lui rend pas visite. Il ne lui crie pas. Il ne sort pas. Qu'est-ce qui va se passer? Cet amour ne va pas exister. Et quelque part, cet amour ici, Christ nous dit, ils avaient de la persévérance. Ils ont su distinguer ce qui était faux et ce qui était bon, mais le premier amour n'y était plus. Il y a des bonnes nouvelles. Il nous donne une recette, si vous voulez, comment ranimer ce premier amour. Premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ce premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Ou à un certain moment, on est venu vers Dieu et on a découvert cette grâce, ce pardon, cette liberté pour aimer Dieu, pour être dans la présence de Dieu, pour chanter cette présence de Dieu, cet amour où on n'avait pas honte de dire qu'on est chrétien, qu'on voulait le dire aux autres, parce que le Christ était frais, son amour présent dans nos vies. Souviens. Et puis, repens-toi. Repens-toi, c'est, Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et si on veut entrer dans le règne de Dieu, il faut qu'on se détourne de ces anciennes manières de vivre. Qu'on se détourne, qu'on choisisse le Christ. Et quand on vient vers Christ, c'est parce qu'on se détourne d'autres choses. On prend une décision claire, pour suivre le Christ. Repens-toi, il est dit. L'abandon de l'amour de Dieu n'était pas inconnu dans l'Ancien Testament. Les prophètes et même Deutéronome, quand le peuple de Dieu, la deuxième génération de nouveau, était prête à entrer dans la terre promise. En Canaan, Dieu dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, parce que tu as abandonné. Ou encore 2 Chroniques 24, dans les prophètes, avant de passer en exil, vous n'aurez pas de succès car vous abandonnez l'Éternel, votre Dieu, il vous abandonnera. Ça nous semble peut-être sévère, mais voyons de la perspective de Dieu. Il vient vers nous. Il ne se donne à une relation avec nous, ses enfants. Il nous met dans une alliance avec lui. Une alliance qui est scellée par le sang de son Fils. Et il veut se donner à nous pour que nous marchions avec lui. Mais il ne veut donc pas que nous nous laissions cette alliance. Pas plus que notre conjoint veut que nous laissions notre alliance. Si avec Véro, elle veut me parler,
et moi je lui dis oui. C'est très intéressant.
Il viendra à un certain moment où elle n'arrivera pas à me parler. Et notre alliance qui doit être précieuse et honorée et élevée et protégée ne sera plus la même. Même chose pour Dieu. Dieu prend très au cœur le fait que nous marchions avec lui, que nous le connaissions, que nous gardions cette alliance avec lui. Donc, repens-toi, il nous dit. Et notre vie est une vie qui se repent, une vie. Et dit, tu veux aller pour là. Merci, c'est bon. Merci. Où il nous prend au sérieux pour garder, pour bénir. La plus grande bénédiction dans la vie, c'est de connaître Dieu. Parce qu'il nous aime, parce que s'il nous change la vie, parce que c'est la vie de l'intérieur. Et la deuxième, c'est votre relation avec votre conjointe et votre cette alliance. Les deux sont au cœur de l'alliance. Et nous avons besoin des deux pour faire des sacrifices. Des deux pour aimer, pour ne pas être éparpillés, pour être attachés l'un à l'autre, parfois de faire entorse à soi-même. D'être prêt à être donné à Dieu pour l'aimer comme pour sa propre femme, comme son propre mari. Donc, à se repentir de se détourner des aspects qui nous nuisent, qui peuvent s'ingérer. Véo et moi, on ne va pas permettre qu'il y ait des problèmes, des difficultés qui s'ingèrent. Moi, je téléphone où il y a des occasions pour se parler, de se retrouver. Pareil pour Dieu. Dieu ne veut pas vous laisser, nous laisser, nous écarter, marcher très loin de lui. Mais au contraire, il agira, il nous parlera, il nous ramènera, parce qu'il nous aime. De cette même façon, il nous aime et il veille sur nous. Mais d'une façon, parfois, qu'il écrit comme étant jalouse. Donc Dieu se donne cette prérogative pour veiller sur nous, pour aimer. Nous repentir donc, chaque fois qu'il y a un aspect qui puisse nuire à cette alliance avec Dieu, cette relation avec lui, même quand ça fait mal, c'est ça le repentir, c'est de se détourner des anciennes façons de vivre, à rester avec Dieu. Et quand vous vous heurtez à des difficultés, vous dites, ça, c'est pas facile. Prends le temps de passer avec Dieu. Prends le temps de venir. Prends le temps de prier. Je sais. Mais la récompense sera la plus grande. Parce que la bénédiction de connaître Dieu est la plus grande dans cette vie et dans la vie à venir. Se repentir, donc, vaut la peine de venir vers lui. C'est utile. Même quand on fait entorse à ses temps, à ses efforts, à sa vie, pour le connaître. Et puis, il nous dit, au verset 5, pratique les premières œuvres. Pratique les premières œuvres. Souviens-toi de cette premier amour, quand Dieu était présent, quand on chantait avec Dieu parce qu'on l'aimait, quand on parlait de lui, parce qu'on voulait que tous le connaître. Souvenons-nous de cet amour. Repentons-nous. Détournons-nous de ce qui puisse nuire. Et pratiquons les premières œuvres. Aimer se pratique. Aimer l'amour est un acte. D'aimer les personnes est un verbe. Nous aimons un acte, mais pas non sans. Et nous aimons Dieu par nos œuvres, pas seulement parce qu'on le lui dit. Les œuvres qu'on aime, qui montrent qu'on aime Dieu, il y en a au moins deux. La Bible nous dit, dans 1 Jean, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas les frères? 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment savoir si on aime Dieu? Si on aime les autres. Quand on est fatigué, c'est pas facile. On rentre à la maison, il y a encore des enfants, des besoins pour aimer, on est fatigué. Mais c'est là, en tant que parent ou en tant que conjoint, que Dieu nous demande aussi de l'aimer en aimant notre prochain, notre conjoint, nos enfants, nos collègues, nos patrons, nos voisins. De deux, si on garde les commandements de Dieu, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et pour garder les commandements, il faut les lire. Pour garder les commandements de Dieu, nous avons besoin d'écouter Dieu, pour lui permettre par sa lettre d'amour, de nous dire encore qu'il nous aime, qui il est, de se présenter à nous, de permettre que nos cœurs soient attendris, pas endurcis, par ce monde, à la course effrénée, mais de permettre que Dieu lui-même parle par son amour. Il attendrit. Et puis, parce qu'on l'aime, on lui obéit. Véro parfois me demande, peux-tu m'amener ceci? Peux-tu m'aider avec Tim? Puisque je l'aime, j'y vais. Dans les deux sens. Cet amour se construit avec Dieu comme avec des autres personnes par des actes, par des efforts qui se donnent, des petites choses parfois de la vie. Et quand Dieu nous demande d'obéir et quand on lui obéit, on trouve cet amour pour Dieu. On ranime cet amour, on vit dans cet amour pour Dieu. Parce qu'on lui obéit, parce qu'on l'écoute. Et parce que quand on est obéit, Dieu se manifeste. Il se montre. Et parfois, il nous met à l'épreuve, il nous demande, va me chercher, aide-moi à faire, fais ceci. Et en faisant, c'est là où Dieu nous retrouve. Et cet amour pour Dieu se fortifie. Et qu'on voit que Dieu était là. Quand il nous a demandé d'agir, il était présent. Il y avait une femme qui est allée voir une conseillère conjugale qui a dit, je ne sais pas, je t'aime plus mon mari, tu sais, la flamme est partie, et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Le conseiller lui a dit, faites ceci, madame. Vous allez lui faire les petits plats qu'il aime. Mettez-vous, habillez bien, mettez vos belles robes, sortez un peu avec lui, passez du temps. Écrivez-lui des petits mots qu'il aime, des petites choses qui encouragent. Et puis, regardez ses choses préférées à la télé. Même si vous n'aimez pas le rugby, vous devenez quand même pour le week-end. Et vous allez rester. Et puis, revenez vous voir en 2 semaines pour me dire comment ça va. Donc, 2 semaines, elle revient au conseil conjugal. Il lui pose la question, mais comment ça va, madame? Vous êtes prête à quitter votre mari? Ça va vraiment faire mal maintenant que vous lui montrez toutes ces choses. Ah, qui dit mon mari? Pourquoi? Je l'aime. Ce n'est pas étonnant. Souviens-toi de ce premier amour de Dieu qu'on a expérimenté, cette joie de la découverte, de son amour, de son pardon, de son grâce, de sa grâce pour nous. Repends-toi. Chaque fois, tournons-nous de ce qui nous est. Ce qui peut s'ingérer. Et pratique. Pratique. pour que cet amour soit vécu, ranimé, expérimenté, fortifié, que vous mettez ensemble un chemin commun entre vous et Dieu. Christ nous dit, sinon, verset 5b, je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y avait des problèmes dans l'église à l'époque. L'empereur voulait les tabasser, les jeter en prison, les tuer. L'empereur Domitien, l'année 90. Donc il y avait une opposition féroce. Et ça inquiétait l'apôtre. Mais encore, il y avait au sein de l'église une vie qui était un peu floue. Les qualités, certes, la persévérance, une certaine haine du mal, mais à cause de cette vie mixte, vie où il y avait, où ils se sont pas détournés de ce qui était de Dieu, du mal plutôt, pour aimer Dieu de tout le cœur, l'Église de l'intérieur était compromise. Son existence, à un tel point qu'elle risquait de ne plus tenir. Et c'est vrai qu'on a du mal parfois à parler de notre foi, ou on a du mal parfois face à la persécution de ne pas nous couvrir un petit peu la face pour s'éclipser. Mais le danger ici qui était présent à cette église à Éphèse était qu'ils avaient mené une vie compromise pour le Seigneur qui était redescendu à un niveau de train-train. Il n'y avait plus cette passion. Il n'y avait plus cette vie comme l'amour, comme au premier jour, la découverte de Dieu. Et le Christ le demande de ranimer cet amour. Sinon, je viendrai à toi, j'écaterai ton chandelier. Le sens ici est tout simplement, à mon sens, que Christ, nous portons le nom de Christ. Et quelque part, il y a NF, ou NC pour nom de ciel, où le Christ doit descendre et contrôler. Et si ce n'est pas la vie qu'il veut, il doit faire les corrections. Ici, c'était radical. Le Christ veut que nous le reflétions. Quand les voisins me voient, et c'est tout ce qu'ils vont voir de Christ, à part les moqueries à la télé. Donc il faut me voir. Est-ce que j'aime le Christ? Est-ce que je les aime? Est-ce que je garde ses commandements? Est-ce que j'aime ma famille, mes proches? Est-ce que je les aime? Sinon, le Christ me dit, nous dit, que son nom qui est mis sur notre cœur est compromis. Et c'est son nom, il détient le droit de mettre son nom ou de l'ôter. Et nous, en tant qu'Église, veillons sur nous-mêmes que notre amour soit vrai, réel, autant ce que pourrait nuire chaque jour les petites choses qui s'émissent pour que nous aimions le Christ de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est le premier commandement. Pour cette vie et pour la vie à venir, parce que c'est pour notre bien. À moins que l'on mette le Christ en premier, au moins qu'on cherche d'abord le royaume des cieux, Dieu ne trouvera pas sa juste place. Et le Christ lui-même dit qu'il viendrait. Ok, je ne veux pas que cette église disparaisse. Je ne dis pas ça d'une façon prophétique, mais j'écoute la parole, parce que les versets suivants nous disent que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et Jésus avait souvent dit, quand il a parlé en parabole, que celui qui a les oreilles écoute. Parce que Dieu parle en parabole. Ce n'est pas pour tout le monde pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais à vous, Dieu a donné pour comprendre. Et si nous avons les oreilles pour écouter, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Christ nous connaît, il connaît nos œuvres. Il veut que nous lui obéissions, que nous l'aimions, que nous l'adorions en vérité. Ici, et quand nous quittons ici, pour être son peuple, pour porter son nom, pour montrer son amour, notre obéissance pour ses commandements. Et à ceux qui le font, il donnera au vainqueur, à ceux qui vainquent l'opposition de ce monde, la persécution, la pression de céder, de dire, oui, je suis chrétien, mais bon, je sais. Non. J'ai découvert le Christ, et je suis chrétien. Et j'aimerais t'en parler. J'aimerais t'inviter à venir à Alpha pour discuter, pour apprendre du Christ. À celui qui vainque, c'est son propre cœur aussi, pour aimer le Christ, pour ne pas vivre une vie cloîtrée des chrétiens, mais une vie véritable, qui aime le Christ, où cet amour est contagieux, où d'autres puissent nous voir que nous sommes des passionnés pour la personne de Jésus-Christ, qui vit parmi nous, qui vit en nous, qui nous fortifie. Et qui nous aime. Et à cause de cela, eux, ils veulent le connaître. Eux, ils veulent aussi être pardonnés. Ils veulent aussi être prêts pour le royaume éternel, pour le Christ. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu nous accueillera. On sera chez lui, comme il nous veut, un jour. Quels sont les aspects de nos vies? Si vous faisiez un sondage, votre amour pour le Christ sur une échelle de 1 à 0 à 10, où 10 est brûlant, où on aime le Christ, on lui obéit en ce qu'il nous dit, où on aime les autres, comme il nous le demande, où on est ce qui parle de cet amour, on se mettrait où? À 10 pour passionner, 5 pour parfois, assez souvent, 7, 2 pour il pourrait m'arriver. Qu'est-ce qui nuit à notre amour pour le Christ? Est-ce que cela va vite? Est-ce que c'est trop? Est-ce que j'ai des copains qui peuvent aussi me freiner? Est-ce que c'est la vie, famille? On n'est pas tout à fait libre. En tout cas, que Dieu, que le Christ lui-même, viennent, qui nous parlent, qui nous aident à ranimer cette flamme, à nous souvenir de là où on était libre pour aimer, parler, chanter pour lui, prier, vraiment pour que lui-même il règne dans nos vies et à travers de nos vies, chez les autres.